et merci à tous d'être là. Donc, en effet, commémorer le centenaire, alors c'est toujours un centenaire, c'est toujours digne d'attention. Alors, celui-là, en effet, n'a pas donné lieu à de grandes manifestations. Et à mon avis, et à mon grand regret, parce qu'en effet, cette loi totalement révolue quant à sa mise en œuvre est bien oubliée, mais me paraît d'une actualité tout à fait, et je dirais même, brûlante. Alors, quelle est cette actualité ? Non, il faudrait reculer. Hein. Voilà. Donc, c'est son libellé, c'est la loi sur la protection des appellations d'origine, et c'est une rupture totale dans l'histoire de la vitisphère et l'histoire aussi du droit, puisqu'on passe jusqu'alors d'une dénomination attribuée à des prétendants, ceux qui prétendaient à l'appellation, et on passe du droit à, c'est-à-dire un devoir de l'État de remplir auprès des concitoyens, de rendre un droit créance et pas un privilège. Alors, quelle est cette actualité de la loi qui me paraît à la fois criante et en même temps mise en sourdine ? Alors, bien avant qu'il s'agisse du centenaire, j'avais été frappée et choquée à une assemblée générale de l'AVC il y a 6-7 ans, quand un représentant éminent d'une grande maison avait appelé à la grande union de la famille interprofessionnelle pour défendre la marque Champagne. Et à ma connaissance, et à mon point de vue, Champagne n'est pas une marque, c'est une appellation. Et donc c'est là où je trouve l'actualité de la loi de 1919 qui a marqué une rupture, mais qui n'empêche pas la tension continue et le conflit ou rampant ou déclaré entre marque et appellation d'origine. Et cette tension entre marque et appellation d'origine, elle a été réactivée par les accords internationaux avec lesquels on est bien obligé de faire, et vous en particulier. C'est les accords ADPIC sur la propriété intellectuelle qui ont été avalisés par l'Organisation mondiale du commerce et qui sont en vigueur depuis 1995. C'est-à-dire où la marque est considérée comme un bien privé. Et l'appellation, à ma connaissance, n'est pas un bien privé. Et ce conflit entre marque et appellation, je le trouve particulièrement réactivé depuis, disons, l'an 2000, par la marchandisation à outrance, y compris de l'espace public, à travers le naming. Hein, le nom, c'est la renommée. Alors, qui va s'approprier le nom qui fait la renommée ? Et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas de lieu plus approprié pour commémorer ce centenaire que la Champagne, et en particulier la Côte des Bas, puisque le conflit entre l'Aube et la Marne, qu'on a une fois un peu apaisé après 1927, qu'on a appelé la guerre de 20 ans, est à l'origine directe de la proposition de loi et du projet de loi. Et mais non, mais pourquoi on... Tu peux me laisser à la première, s'il te plaît ? Voilà. Hein ? Donc tu recules encore à la première, parce que je veux absolument citer Chappaz, que j'avais mis. Non, tu recules ? Voilà. Donc, quelqu'un qui connaissait très bien son affaire, qui était Georges Chappaz. Alors, je rappelle brièvement qui était Georges Chappaz, ingénieur agronome. On dirait aujourd'hui enfin on disait à l'époque professeur départemental d'agriculture, c'est-à-dire directeur général des services agricoles aujourd'hui, qui a été en poste dans la Marne de 1904 à 1913, qui est devenu inspecteur général de l'agriculture, puis qui a été détaché à la direction de l'AVC de 1919 à 1928, et qui a été le premier secrétaire général en date du Comité national des appellations d'origine, donc l'INAO première version, dès sa fondation en 1935. Et dans le livre qu'il a consacré en 1947 à l'histoire du vin et du champagne, donc il écrit, et c'est un personnage plutôt pondéré, très averti, mais très pondéré. La champagne viticole a été en vedette, tenant sans cesse la tête du mouvement dans cette affaire des appellations d'origine. Alors j'ajouterai pour ma part, dans mon mouvement d'humeur, qu'elle a été en vedette pour le meilleur sans doute, mais pour le pire aussi, hein, c'est toute l'histoire du conflit Aube-Marne. Et donc, la tendance aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'assimiler l'appellation à une marque territoriale, et comme on dit dans le langage, dans le globish English, territorial brand, la marque territoriale. Et où finalement, quand on lit la littérature anglo-saxonne, le terroir, ça devient le terreau culturel. C'est un peu hors sol. Alors, à l'origine de cette loi de 1919, c'est la loi de 1905 sur la répression des fraudes qui a été considérée, selon une formule qui me plaît beaucoup, que je trouve assez juste, de l'antichambre des appellations d'origine. Non, ça, moi, je ne suis pas à la cadence, là, hein, voilà.
Oui, mais il y a tout inversé. 1, c'est 2, 2, c'est 1. Donc ça, c'est quoi, c'est 9 ?
Non.
C'est 2 ?
Ben voilà, c'est bon, là.
Ouais, regarde en bas, 1. Voilà. Ah, si, parce que quand tu fais suivant, il passe plus...
Donc, cette loi sur la répression des fraudes de 1905, c'est déjà une grande aventure, puisque le projet de loi a été déposé en 1898. Donc, 7 ans de réflexion avant de pouvoir mener à bien cette loi, parce que où était la bataille, qu'on va retrouver dans la bataille des appellations d'origine, c'était, je cite une circulaire de l'époque, une circulaire professionnelle de commerçants, une atteinte odieuse contre la liberté du commerce. Et donc cette loi de 1905, elle punit la tromperie sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'origine de toute marchandise, donc elle est loin de concerner exclusivement les vins, mais c'est la crise viticole qui va faire que toute l'attention se polarise sur la crise viticole, notamment en ce qui concerne les appellations régionales et les crus particuliers. Donc c'est en application directe de cette loi qu'est établie au ministère de l'Agriculture une commission des boissons qu'on appelle plus familièrement à l'époque la commission des fraudes, et c'est... par accroc à cette loi, que, et c'est la Marne, les vignerons marnais qui ont pris l'initiative dès 1902, donc ils sont les premiers à réclamer une délimitation de la champagne viticole proprement, car ces vignerons, au fil des décennies du 19e siècle, et avec l'essor du champagne, le boom à partir des années 1860, donc le champagne est devenu, le champagne effervescent est devenu le débouché principal et à la fin du siècle quasiment exclusif de la viticulture marnaise, la production de vin tranquille s'est complètement évanouie et le phylloxéra achève de la faire disparaître complètement en 1890. Et donc, ces vignerons sont devenus des fournisseur de matières premières, massivement de vente de raisins au kilo, qu'on trouve de la Marne les premières traces les années 1840, au mieux de mou ou de vin clair, mais par des vignerons qui, les choses se développant ainsi, ont abandonné et leur matériel vinaire et leur savoir-faire vinicole. Et donc, ils sont dépendants du prix du raisin. Et c'est d'ailleurs cette situation qui engendre la formule qui paraît jusqu'aux années 20 absolument intangible, insurpassable, au vigneron le raisin, au négociant la bouteille. Un partage des tâches, une division du travail immuable. Mais il se trouve que depuis le milieu des années 1890, le prix des raisins non seulement diminue, mais quasiment s'effondre, alors que les ventes de champagne connaissent une ascension, parce qu'il y a un chiffre que je tiens à rappeler. Un record des ventes est atteint dans l'année récolte 1910-1911, avec 40 millions de bouteilles d'effervescent expédiées de la Marne. Alors, je tiens à souligner que ce record ne sera égalé qu'en 1954-55. Et donc, la version vigneronne de la règle au vigneron le raisin, au négociant la bouteille, c'est, vu du côté vigneron, on en trouve trace dès les premiers numéros de la Champagne viticole, après sa fondation en 1909, c'est vin de luxe, produit de misère. Donc, la volonté, l'objectif des vignerons, qui, avant même que se constitue l'ancêtre direct du SGV en 1904, donc en 1902, les premiers syndicalistes vignerons de la Marne annoncent le lancement d'une pétition qui promet colossale pour une délimitation stricte de la Champagne viticole, c'est-à-dire pour verrouiller les approvisionnements et par conséquent donc relever les prix du raisin et parvenir à imposer ce qui sera un des socles constitutifs du syndicalisme vigneron, la négociation annuelle des prix de la matière première préalable à chaque vendange, qui fut une bataille de chiens, mais vous le savez sans doute encore mieux que moi. Alors, c'est dans cette loi de 1905 que les parlementaires de la Marne, qui sont en position de force, de grand prestige et de grande autorité, alors je n'en citerai qu'un, il a son nom dans les rues, dans les établissements scolaires, c'est Léon Bourgeois, qui est considéré à l'époque comme le pape du radicalisme et qui pèse d'un très grand poids, qui a été ministre et qui est toujours ministrable jusque dans les années 20. Et donc, Léon Bourgeois, à ce moment-là, est député, pas encore sénateur, et il appuie cet amendement marnais, mais c'est toute la députation marnaise unanime, qui demande qu'en vertu de cette loi sur la répression des fraudes, des règlements d'administration publique qui étaient prévus pour réglementer délimiteront les régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits, en prenant pour base les usages locaux constants. Donc la formulation, elle est là prête. Alors, la Chambre des députés est embarrassée et il y a une séance, vraiment, où le rapporteur répond à cette demande d'amendement que la cause est entendue, mais l'amendement n'est pas retenu. Donc, les Marnais et d'autres, comme la cause est entendue, même si l'amendement n'est pas retenu, donc considère que l'adoption est implicite. Et donc, les élus marnais, à la fois les représentants nationaux, mais aussi les élus locaux, départementaux, donc le Conseil général, et on trouve un peu des mêmes dans les deux, mette en route une commission de délimitation de la Champagne viticole. Donc, pour proscrire des approvisionnements du champagne, les vins étrangers, guillemets de citation, c'est-à-dire les vins étrangers au département. Et on savait qu'il y avait des vins qui venaient de la Loire, qui venaient du Toulois, qui venaient du Messin, qui venaient... bon. Alors, de l'Aube aussi, sauf que la législation en vigueur et la loi existe toujours, mais comme m'avait dit Robert Saint-Lot, ancien président de l'Office international du vin, elle ne sert à rien. Elle est toujours en vigueur. C'est la loi de 1824 qui avait donné lieu à qui protège, qui était faite pour les marques et à la demande des marques, qui était faite pour lutter contre la contrefaçon, les plagiaires et les faussaires, et qui avait abouti à une législation très précise, à une jurisprudence, pas une législation, pardon, une jurisprudence très précise autour des années 1880-1890, qui ne pouvait être dénommé champagne que les vins récoltés et manutentionnés en champagne, et ajoute la Cour de cassation, dont les limites ne sauraient être ni restreintes ni étendues. Et la Cour de cassation, de façon très explicite, renvoie à la province de Champagne telle qu'elle existait jusqu'en 1789, et par conséquent, l'Aube était pleinement, était partie intégrante de la Champagne, ce qui donne lieu à cette règle de jurisprudence qui maintenant est la devise de l'interprofession, il n'est champagne que de la Champagne. Et qui vaut aujourd'hui dans la concurrence des effervescents du monde. Et par conséquent, donc survient une première délimitation, alors discrète, et donc les conclusions de cette commission locale de délimitation de la Champagne viticole sont remises à la commission des fraudes, dont la création est toute récente, et qui l'envoie pour avis au Conseil d'État. C'était la procédure prévue par la loi de 1905. Et ça donne lieu à une réaction très vive des députés au bois, et ça donne lieu à un débat d'interpellation sur la question, qui est un débat historique, car le député Castillard, puisqu'il s'agissait de Castillard, dénonce, donc il fait un débat sur les principes, et un principe explosif, qui est le droit de propriété. Et donc Castillard fait valoir que décréter, délimiter une délimitation territoriale, c'est-à-dire l'aire d'application d'une appellation, met en jeu la question de propriété dont le pouvoir législatif, dit-il, ne peut être dessaisi. C'est pas possible de s'en remettre à l'exécutif et à l'avis d'une instance même aussi qualifiée que le Conseil d'État pour procéder à un tel examen. Et donc son débat, son interpellation qui est très longue, très mouvementée, suscite vraiment plus que les états d'âme du Conseil d'État, et le Conseil d'État, à la suite de ce débat d'interpellation de juin pardon, de juin 1907, surtout que ce débat intervient en pleine révolte des vignerons du Midi. Donc la situation viticole est extrêmement tendue et l'exécutif comme le pouvoir législatif marche un peu sur des yeux. Et donc le Conseil d'État demande une délégation explicite de pouvoir par un vote parlementaire donc de chacune des deux chambres. Donc une proposition de loi est immédiatement déposée et adoptée par la Chambre, mais le Sénat met un an à s'y rallier à cause d'un des seconds points explosif de la proposition du projet de loi, qui était le droit accordé aux syndicats viticoles. Alors finalement, le Sénat se rallie, donc ce qui donne lieu à la loi Cazeneuve, parce que le député qui l'a rapporté, c'était un député du Rhône, qu'on trouve après à la commission des boissons de la Chambre et dans les pères fondateurs du CNAO. Donc, le texte, pour délimiter les régions, donc ça reprend tel quel le libellé marnais 1905, on est toujours dans l'ordre des prétentions A, pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance, en prenant pour base les usages locaux constants. Formule, hein, les usages locaux constants, locaux loyaux constants, qui nous est resté. Et cette fois, la déclaration de récolte, qui avait été repoussée deux fois de suite en 1905, dans la tourmente et l'ébullition de la révolte des vignerons du Midi, est enfin votée. Ça a été aussi une bataille. Et en même temps qu'est créé le service central de répression des fraudes, qui existe toujours et qui couvre, qui a une emprise quand même plus qu'importante. Donc on peut bien dire que la Champagne viticole est pionnière et donc, la suite. Bon, alors, il y a un blanc là, c'est la première délimitation. Donc, maintenant que la délégation de pouvoir au Conseil d'État a été votée, donc le Conseil d'État reprend la question de la délimitation de la Champagne viticole, première à la demander, première à l'obtenir, et donc c'est le décret de décembre 1908 qui confirme ce que laissait prévoir la première version en sourdine, avait dit le député Aubois, qui confirme l'exclusion de l'Aube, pour quelle raison ? Par défaut d'usage locaux constant de culture et de production. Et les députés marnais en remettent une couche en rappelant en débat de la Chambre que l'Aube ne peut s'appuyer ni sur ses usages traditionnels, ni sur ses usages commerciaux, considérant que les vignerons bois déclarent qu'ils vendent quasiment toute leur récolte au négoce marnais, mais que le négoce marnais nie faire tout achat dans l'Aube. Alors c'était la formule superbe de Bertrand de Mas, hein, auditionné en pleine tourmente en 1911. Alors Bertrand de Mas, c'est président à l'époque de Veuve Clicquot et président du syndicat des commerces. Monsieur Bertrand de Mas défie que le commerce des vins chers avoue être allé s'approvisionner dans l'Aube. Hein, c'est magnifique de style diplomatique. Et nous arrivons au tournant de 1911, c'est-à-dire celui des révoltes champenoises, tant marnaises qu'auboises, sur lesquelles un couvercle a été mis quand même dans l'histoire nationale. Hein, la révolte de 1907, les braves soldats du 17e, tout le monde connaît l'air et la chanson, mais les révoltes de Champagne de 1911, c'est tabou. Et comme avait dit le syndicat général des vignerons en 1912, jetons un voile. Alors, on a du mal. Et alors, si j'avais une petite ambition d'ici la fin de ma vie, ce serait de faire sortir du placard les révoltes de Champagne de 1911. Parce que ces révoltes, elles ont été un véritable traumatisme national, parce qu'elles ont réveillé le spectre de la guerre civile. Donc c'est pour ça que je vous ai quand même essayé de trouver quelques citations parmi les plus fortes. Voilà ce que dit la presse à l'époque, une législation improvisée de séparatisme viticole. On parle aussi, formule encore plus choc, en pleine guerre balkanique, la question d'Orient intérieur de délimitation pour la France. Et je cite aussi Clémentel. Alors Clémentel, il a été président de la commission de l'agriculture et il est ministre de l'agriculture en 1912-1913, donc il sait vraiment de quoi il parle. Voilà ce qu'il dit dans un livre de 1914 au titre absolument pathétique qui s'appelle « Un drame économique, les délimitations ». Alors, qu'est-ce qu'il dit des délimitations en première version, c'est-à-dire avec par décret sur avis du Conseil d'État ? Voie dangereuse où nous retrouvons successivement toutes les étapes d'une guerre civile moderne, la grève des élus. Bon, plus de deux tiers des municipalités de l'Aube avaient démissionné en mai 1911. À l'époque, il y a 446 communes dans l'Aube et il y a à peu près 60 communes, une soixantaine de communes viticoles candidates à l'appellation. La grève des élus, le refus de l'impôt. Alors ça, mon père m'a encore... il n'était pas né, mais je l'ai compris que bien plus tard. Mon père me racontait que le brûlement des feuilles d'impôt déversait des hôtes à vendange. Et finalement, insurrection. Et c'est la raison pour laquelle on cherche une solution pour repousser ce spectre de la guerre civile. Et que, donc, dans l'urgence, le ministre de l'Agriculture dépose un projet de loi relatif aux altérations et à la... Donc, on a écarté le terme explosif et fratricide, liberticide de délimitation pour celui de protection des appellations d'origine. Alors, comment se dessine la solution ? La solution miracle, c'est de compléter la loi de 1824, qui alors présente toutes les vertus. Elle ne compromet pas le pouvoir législatif, elle ne compromet pas le pouvoir exécutif, puisqu'on renvoie le bébé, si j'ose dire, aux décisions des tribunaux civils. Donc, quel est le sens du complément ? Donc, je cite là l'exposé des motifs qui accompagne le dépôt du projet de loi. Faciliter aux producteurs et négociants la défense des intérêts légitimes concernant la propriété collective des dénominations géographiques de provenance des produits ou défendre la marque d'origine du producteur. Donc, sous couleur de pacifiquement compléter la loi Chaptal qui a pour elle son ancienneté mise en œuvre, pratiquée, confirmée donc depuis 1824, c'est-à-dire elle est presque centenaire. Donc, c'est maintenant rupture avec, on passe d'un bien privé à un bien collectif. Et on va voir, oui. Donc il s'agit d'une propriété collective et c'est un des points du débat explosif parce que dans le contexte de l'époque, alors déjà avant 1914 et après 1914 et la révolution bolchevique, ça va être bien pire. Parce que cette loi, elle est suspecte, je cite, d'un collectivisme confus. Alors, je voudrais rappeler quand même que la municipalité d'Hérissé, avant 1914, pendant deux mandats consécutifs, a été élue une municipalité guédiste, hein, c'était les rouges de l'époque, ou comme on disait justement dans le langage de l'époque, les collectivistes. Donc, ça fait... révolutionnaire, quasiment séditieux. Autrement dit, et c'est comme ça que le négoce l'a vivement ressenti, sous couleur de compléter la loi chaptale, c'est ressenti par le négoce comme un quasi-transfert de propriété, transfert des marques, donc des maisons de commerce, des maisons de négoce, à transfert à la collectivité des vignerons. Et la Chambre des députés en rajoute trois couches, là-dessus elle tient bon. Donc le viticulteur a droit à la propriété du nom de son cru. Et autre belle formule inspirée de la culture des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, la eau est considérée comme la propriété inviolable, collective et sacrée des producteurs du lieu d'origine. Et donc, le négoce, le commerce, a l'impression, vit ça comme un véritable dessaisissement ou une quasi-expropriation. Et là, j'ai pris beaucoup de citations du négoce, dans le négoce bordelais, qui donne de la voix et qui a une littérature de propagande, enfin, parce que le commerce, le négoce du champagne laisse passer l'orage et est plutôt muet, ne s'exprime pas du tout sur la question, ni publiquement, ni à travers ses représentants nationaux. Alors nous en arrivons à ce fameux projet déposé dans l'urgence en 1911 de la protection des appellations d'origine. Donc quels sont les critères avancés? C'est l'origine, la nature et la qualité substantielle des vins tirés, je cite le texte du projet de loi, tirés principalement des cépages, modes de culture et terrain. Alors, cépages, modes de culture et terrain, c'est selon les pionniers, les pères fondateurs de l'œnologie en France, c'est-à-dire Chaptal, André Julien et aussi pour la diffusion, la pédagogie, Jules Guyot, hein, c'est la trilogie des usages de production. Et cette intrusion, cette référence obligatoire à des critères qualitatifs donne un débat absolument explosif et qui explique qu'il soit aussi laborieux et que le projet de loi déposé dans l'urgence traîne de débat en débat. Donc ça nécessite, ça déclenche, ça provoque des réactions tempétueuses de tout le commerce et le négoce des vins, qui dit que aucune législation, ni nationale ni internationale, n'avait jamais fait référence à la qualité des vins, et que l'origine géographique, oui, mais la qualité des vins. Alors, qualité substantielle, le terme a disparu parce qu'il est devenu tabou. En plus, il était quand même un peu trop réputé chimiste. Mais il nous est devenu très familier parce que c'est la transition directe aux qualités organoleptiques. Et la première mention que j'ai trouvée à ma connaissance de qualité organoleptique, c'est en 1937. C'est pour l'Expo de 37, entre autres, que s'est tenu un congrès international du vin. Et c'est Joseph Capu qui a présenté un rapport sur la définition de la eau, où il énumère les caractères organoleptiques comme critères de différenciation et de distinction de la qualité des vins. Alors, le commerce bordelais et aussi bourguignon monte au créneau. Le commerce, le négoce champenois étant toujours aussi discret ou tétanisé, sur ses qualités substantielles, parce que, évidemment, c'est complètement à contre-courant des pratiques commerciales, donc des usages commerciaux, qui étaient les coupages des vins. Alors, je ne me lasse pas par ces temps de loi et vins donner les dénominations d'époque, puisqu'on parlait de vin de soutien ou de vin médecin pour remonter les vins et assurer, soi-disant, la constance de la qualité. C'est la raison pour laquelle, donc c'était le camouflage légal, professionnel de l'appel au vin étranger. Et c'est pourquoi les associations professionnelles viticoles qui se constitue en fédération en 1913, justement pour pouvoir peser sur ce débat, sont résolument contre la mention des qualités substantielles qui, pour elles, apparaît comme le prétexte pour le négoce pour maintenir et faire continuer à pratiquer ces fameux coupages. Et par conséquent, devant le conflit, alors conflit parlementaire, mais largement répercuté dans la presse professionnelle, chez les économistes, dans leurs revues plus ou moins savantes, et même les plus savants, qui montent au créneau contre ces fameuses... Et par conséquent, après que les qualités substantielles aient été retirées du projet, puis rétablies, puis discussion, puis rapport, consultation juridique au plus haut niveau, j'abrège. Donc, finalement, intervient le vote de la Chambre dans une séance avec une dramaturgie pas possible. Donc, 60... Alors, la Chambre a quasiment fait le plein, hein, 537 présents. Et la Chambre, à 62% des présents, vote contre les qualités substantielles, mais il y a quand même une forte minorité de presque 40% de récalcitrants absolument irréductibles, dont, ça ne vous étonnera pas, ou plutôt ça peut étonner, dont les représentants marnais, qui eux sont pour le maintien des qualités substantielles. Alors, cette séance, pour vous montrer un peu la violence rhétorique, hein, ce n'est pas des séances de coups de poing, mais... Donc, ce vote final de la Chambre avait été introduit par une tirade de la Trémouille. Alors, ce n'est pas n'importe qui, c'est le duc de la Trémouille, également prince de Tarente, possesseur du château Margaux et député de la Gironde. Et donc, qui monte au créneau le premier, peut-on contester au détenteur d'un vignoble le droit de faire du nom de ce vignoble l'usage qui lui plaît? Si l'attribution du nom est subordonnée à certaines qualités, il est porté atteinte au droit de propriété. Donc, c'est sur le droit sacré de propriété que, finalement, s'est cristallisé le débat. Et donc... D'autres députés rappellent que la loi Chaptal, donc la fameuse loi de 1824, comme les premiers accords internationaux arrangement de Madrid en 1891, sont muets sur la qualité. Alors, petite anecdote qui j'espère vous fera sourire. Au terme de l'arrangement de Madrid, c'est-à-dire les premiers accords internationaux conclus sur le commerce international des vins, une dénomination qui faisait fureur en Angleterre à l'époque, comme Bourgogne d'Australie, était parfaitement légal. Et c'est pour combattre... Alors, voilà. Et donc, voilà où nous en étions en 1913. Donc, la Chambre a fait son boulot, le conflit reste ouvert, et la Chambre transmet la loi, la discussion finale, au Sénat. Le Sénat, très prudent, reprend l'examen du dossier et dit le rapporteur de la commission sénatoriale avec une patience que rien n'a pu lasser. Alors, le Sénat cherche une sortie conciliatrice, pacificatrice, et vu la violence, alors des révoltes de 1911 et la violence des débats, on avait promis une grande loi de pacification nationale. Ce sont les termes d'époque. Alors, la triade, enfin les usages passent de la double définition à la triple définition. Usage, c'est de là que vient la formule usage locaux, loyaux, constants. Donc, c'est pour contrer justement. Donc là, nous sommes, je dis nous parce que je me considère comme champenoise, auboise, côte des Bariennes, c'est la référence à la loyauté. Elle a été faite justement pour contrer la revendication aux bois qui disait qu'ils vendaient leur vin aux négoces marnais. Et ce que une partie des marnais considérait, alors l'aube disait usage constant et les marnais ont répondu abus constant. Donc c'est pour sortir de cette antinomie usage constant, abus constant, qu'on fait intervenir la loyauté des usages comme antidote, justement, à l'abus. Donc, mais il s'agissait à l'époque essentiellement de loyauté commerciale. Alors, deuxième principe de la loi du projet du Sénat, du rapport du Sénat qui va être adopté, c'est que qui revendique la aube ? Et donc là, on a la rupture avec le droit des marques, car la aube est revendiquée exclusivement par les producteurs lors de leur déclaration de récolte, et pas ailleurs. Troisième point qui a fait hurler aussi, c'est la pleine capacité de leur syndicat à défendre le nom et la renommée de l'appellation. Et donc là, je vous abrège l'article de presse, chantage syndical, tyrannie syndicale, et menant tout droit au syndicat obligatoire. Collectivisme confus. Alors, donc la procédure est judiciaire, ça c'était un choix délibéré, un choix politique, c'était pour épargner aussi bien l'exécutif que le législatif. Donc on renvoie le bébé aux tribunaux, c'est-à-dire aux tribunaux du cru, de l'arrondissement en l'occurrence, au plus près donc de l'appréciation des usages locaux, avec possibilité d'appel jusqu'en cassation. Et donc on promet une grande loi de pacification nationale. Alors, la question champenoise est vraiment bien présente, puisque la loi de 1919 contient 6 articles spécifiques à l'appellation Champagne. Et pour autant, on n'a jamais dit que c'était la loi Champagne. De même que, je rappelle que la loi de 1927, elle comprend aussi 3 articles spécifiques à la Champagne. Donc, c'est pas seulement par esprit de clocher, même étendu à la région, que je dis que la Champagne est absolument déterminante dans cette législation. Toc. Oh, on est déjà là. T'as pas sauté une truc, hein? Ah non, il doit y en avoir une autre, hein? Non. Attends, on est dans la combien là ? 6 ? Non, Ah ben non, c'est ça, excuse-moi. Alors, donc, la loi et le rapport sénatorial est déposé le 3 juillet 1914, c'était un peu tard effectivement, hein, donc l'entrée en guerre reporte le débat sénatorial et donc l'adoption définitive de la loi à l'après-guerre. Donc c'est mis à l'ordre du jour au printemps 1919 dans un contexte très particulier qui est celui de la signature des traités de paix, lesquels traités de paix comportent des clauses de protection des appellations d'origine française. Donc l'heure n'est plus tellement à continuer la discussion, les débats. Donc la loi est finalement adoptée au printemps 1919 et promulguée donc le 6 mai 1919. Et c'est devant les tribunaux que vont se poursuivre les débats et le contentieux. Alors, point explosif avant 14 qui fait flop, la question du droit de propriété ne passionne plus les auditoires et les avocats et les plaignants ou les défenseurs. Et donc, l'appellation d'origine devient un bien patrimonial. Donc, s'émancipe des marques. Alors, maintenant, la question auprès des tribunaux, c'est pas tellement de savoir si c'est un droit de propriété exclusif, mais quel genre de propriété. C'est un genre de propriété, un droit collectif, un bien collectif, patrimoine commun de valeur, ça c'est Clémentel qui le dit, fruit glorieux du sol, du climat, du travail, de générations évanouies, donc vraiment un bien patrimonial, patrimoine dont les producteurs vivants seraient plus les dépositaires, un dépositaire d'un héritage, plus que les propriétaires. Et leur responsabilité, c'est de transmettre cet héritage, de transmettre ce patrimoine, de renommer. Et alors, sur un arrêt Roquefort qui interfère quand même quelque peu avec la future loi de 27, donc les producteurs de Roquefort veulent eux aussi une appellation d'origine garantie pour lutter justement contre les contrefaçons, particulièrement à l'exportation. Donc la Cour d'appel de Montpellier statue sur la question et c'est ça qui m'a intéressé pour souligner le caractère collectif de ce genre de propriété. Donc l'appellation est un genre de propriété. Donc les passions sur le droit de propriété et la droit d'user et d'abuser à sa guise sont éteintes. Deuxième point d'explosion qui s'appelle, c'est l'intervention des syndicats et le rôle des syndicats viticoles, parce que les syndicats viticoles, et je pense pas seulement aux Aubois et aux Marnais, s'empoignent allègrement devant les tribunaux. Donc le fantasme, l'épouvantail, repoussoir syndical. Alors, les conflits, les discussions, me semble-t-il jusqu'à nos jours inclus, se cristallisent sur le point le moins attendu dans les débats préparatoires à la loi, sur les usages. Quels usages ? D'abord, les tribunaux ont massivement, presque exclusivement privilégié l'origine géographique, l'origine territoriale, considérant que sans l'origine, les usages ne peuvent prévaloir. Mais les usages ont été aussi disqualifiés, dévoyés, parce qu'on peut tout justifier par l'usage. Alors, je prends un exemple local, régional. J'anticipe un peu sur la loi de 27. Par exemple, notre boulet local, le boulet du Gamay. Eh bien, le député Le Sachet, qui n'était pas encore sénateur, qui a sa rue au Ricet et qui a voulu être enterré au Ricet, avait soutenu dans des polémiques très violentes contre Gaston Schoeck, qui s'en est jamais remis, que les usages permettaient, justement, la référence aux usages, permettaient, et il se faisait gloire de le démontrer à tout moment, que la référence aux usages permettait de conserver le gamay au bois. Il n'avait pas bien compris le sens de discussion. Donc, supprimer les usages commerciaux sur les usages de production, tout en disant ce qu'avait été déjà dit dans les débats d'avant l'adoption de la loi, que les juges n'étaient pas les dégustateurs professionnels et que les qualités substantielles étaient juridiquement indéfinissables. Dès les premiers arrêts de cour d'appel, la révision de la loi est mise à l'ordre du jour pour protéger la qualité des vins. Alors, la preuve que dès octobre 1922, le ministère de l'Agriculture crée une commission des grands crus pour préparer la révision de la loi, c'est Capuc qu'on est nommé président. La Fédération des associations viticoles de France, à l'initiative du syndicat général des vignerons de la Champagne des Limités, puisque c'est ainsi que s'appelait le SGV Marnais, donc lui crée une section des grands crus dès mars 23. Et dans son bref passage au ministère, Chéron dépose un projet de révision de la loi dès 24 pour demander pas l'origine ou les usages, mais l'origine et les usages de production. Et Capu, qui fait un passage éclair au ministère de l'Agriculture, crée donc un comité juridique des appellations d'origine pour définir, c'est-à-dire utiliser, exploiter au maximum la notion de usage loyaux. Donc comment fallait-il entendre la loyauté des usages pour protéger la qualité des vins. On approche de la fin. Alors, bref rappel, je vais passer rapidement sur cette notion d'usage. C'est une règle qui nous vient du Code civil et qui a été énoncée dès les premiers travaux préparatoires au Code civil, c'est-à-dire dès 1800, la règle selon laquelle, quand la loi est claire, il faut la suivre. Si l'on manque de loi, il faut consulter l'usage ou l'équité. Et c'était pour compenser toutes les lacunes du droit rural, puisque un code rural a été mis à l'ordre du jour dans l'urgence dès 1789 et n'a quasiment jamais abouti par renonciation. Alors, le prétexte qui a l'air carré comme tout, c'est que en France, il y a autant d'usages que de cantons, sauf qu'il y avait la claire volonté politique de ne pas légiférer sur le droit rural, c'est-à-dire de laisser les choses, de laisser courir sur deux points archi-litigieux, le problème des droits collectifs, veine pâture, grappillage, glanage, et point encore plus explosif et conflictuel, les statuts du fermage et du métayage. Il y a eu, pendant la Révolution française, des mouvements extrêmement puissants de métayers qui réclamaient un statut et une loi nationale pour les protéger. Et je vous signale que le statut du fermage et du métayage n'ont été adoptés qu'en 1947. Donc il a fallu du temps. Et donc le Code civil, après cette déclaration de principe dès 1800, le Code civil en 1804, donc retient que pour suppléer au silence de la loi, on renvoie à l'usage du lieu constant. Et donc, tout au long du XIXe siècle, le problème des usages est un problème chronique sur lequel on fait semblant d'avancer sans vouloir vraiment le faire parce que, je vous dis, formule, on laisse courir. On attend que ça s'éteigne. Mais la question se ravive à l'aube du XXe siècle et sur la question justement des délimitations et sur la question des usages, non pas seulement commerciaux, mais les usages de production. Et l'aube avait été exclue de la première délimitation parce qu'elle ne correspondait pas aux critères de production retenus, qui étaient, il y en avait cinq, nature du sol et du sous-sol, cépage, mode de plantation, mode et frais de culture, rendement à l'hectare. C'est-à-dire une batterie de critères qui est quand même assez proche de celle retenue en 1935 par le Comité national des appellations d'origine pour l'agrément des appellations d'origine. Et dans ces années-là, qui sont les premiers jugements des tribunaux, une loi de 1924 crée les chambres d'agriculture et qui sont très explicitement missionnées pour codifier les usages ruraux servant généralement de base aux décisions judiciaires. Donc c'était une obligation légale. Et donc c'était difficile dans toute loi vitivinicole de se passer de cette référence aux usages. Et c'est la raison pour laquelle Capu est bien obligé de composer avec cette référence aux usages, d'où son libellé en 1925, cépage et aires de production ne peut pas échapper aux usages locaux, loyaux et constants. Et il l'a dit dans ses derniers écrits, puisqu'il est mort en 1947, donc il espérait, il ne pouvait pas contourner les usages, restituer au mot usage son plein sens, et ajoute-t-il, donc en vieux routier de la question, je pensais qu'il eût été téméraire de reprendre l'expression qualité substantielle. Et donc nous arrivons à le dépôt de la proposition de révision de la loi de 1919, où là encore, le conflit champenois est à l'origine directe de cette initiative. Pourquoi ? Parce que le conflit Aube-Marne est arrivé en 1925 devant la Cour de cassation, qui rejette les pourvois aussi bien des Marnais que des Aubois. Alors, la Marne voulait exclure toute l'Aube, donc il y avait à peu près 70 communes à l'époque, et l'Aube voulait toutes les communes dans l'appellation, y compris les communes du Barcécoinais, rejetées pour cause de soi-disant présomption d'appartenance bourguignonne dans les siècles passés. Et les arrêts de la Cour de cassation sont récusés aussi bien par l'Aube que par la Marne. Donc la loi de 1919 aboutit à une impasse, hein, et elle est vraiment à bout de souffle. Et donc c'est dans ce contexte que arrête la Cour d'appel de cassation fin mai 25 et Capu dépose son projet, sa proposition, moins d'un mois avant. Et dans cet intervalle, est passé à l'Assemblée, la discussion du cas Roquefort et de la demande d'une appellation d'origine garantie, et avec la discussion très intéressante Et l'objection de certains députés, non des moindres, ce sont les plus grands ténors de la question viticole, que Roquefort, c'est une marque, c'est pas une appellation. Je trouve ce débat vraiment très intéressant. Mais néanmoins, l'objection est rejetée et la loi, la première loi d'appellation d'origine fromagère est adoptée. Mais surtout, Capu donc dépose sa proposition, qu'il a pris soin de faire adopter au préalable par la commission des grands crus, par la section des grands crus et par 318 députés, donc bien plus que la moitié, et critère de l'appellation d'origine, le ou les cépages et l'aire de production, c'est-à-dire le terroir, considérés comme des conditions de production ou des facteurs de qualité des vins. Alors, conditions de production, facteurs de qualité employés exprès par substitution à ces usages qui peuvent justifier tout et n'importe quoi. Et retrait, on a retiré les modes de culture où on a considéré que légiférer sur les modes de conduite de la vigne, c'était, avec réalisme, c'était pas possible ou impensable. Donc, peut-être une émancipation des usages, et Capu fait bien remarquer en 1935 que dans les statuts fondateurs du Comité national des appellations d'origine, il n'est aucunement et délibérément pas question des usages. Mais il a dû faire avec quand même. Et Capu précise aussi que, ça c'est pour répondre au, actuellement, ce débat intéresse aussi les appellations fromagères. C'était pas du tout exclusif, mais dans la situation de la viticulture dans les années 30, Capu, en créant le CNAO, a considéré que l'urgence c'était la question des vins et que pour les autres produits agricoles, on verrait après. Il n'a pas exclu, mais on verra plus tard. Je vous remercie. Ah ben oui, enfin, je termine quand même sur... Ben non, oh là là. Bon, alors, la loi de 27, mais vous la connaissez tous, parce que s'il y a une région viticole en France où on se rappelle la loi de 27, c'est la Champagne. Hein, je suis souvent en Bourgogne, je suis allé plusieurs fois dans le Bordelais, la loi de 27, ça ne leur dit strictement rien. Mais nous, nous avons nos PV de 27. Parce que justement, c'est... par prescription de la loi de 27 qui prévoyait justement une délimitation de terroir et non plus seulement de territoire, hein, appellation d'origine, loi de 19, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui matérialise l'appellation d'origine, c'est une liste de communes. Et quelle est la révision d'importance que prévoit la loi de 27, c'est que l'appellation d'origine, elle ne se matérialise pas par une liste de communes, elle se matérialise par des listes communales parcellaires, donc qui font référence, et le terme a été amplement utilisé dans les débats, donc par référence au terroir. Et qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise le terroir? C'est, là on en revient au classique, hein, la combinatoire sol, climat, cépage. Alors, c'est la petite note locale régionale. Quand même, la loi de 27 a été une bataille de chiens jusqu'à la dernière minute en Champagne, puisque je rappelle, sans acrimonie, mais que l'Assemblée générale du SGV du printemps 26 proclame que jamais l'eau n'entre en Champagne, et que... Donc, c'est la commission des boissons de la Chambre avait fixé comme préalable à la loi la réconciliation entre l'Aube et la Marne. C'est tout le travail de la commission des boissons qui qui aboutit à l'arbitrage Barthes de février 1927, à qui le principal deal, ça a été l'exclusion du gamay. Et donc, que, alors, sentence arbitrale Barthes, dans la Champagne viticole de l'époque, c'est considéré comme l'armistice. Et la loi de 27, c'est-à-dire le vote de la loi, qui est aussi bien la loi Barthes que la loi Capu, je reprends les mêmes éditos de la Champagne viticole, c'est le traité de paix légal. Donc la lutte fratricide est désarmée, mais la réunion des cœurs n'est pas encore tout à fait faite. Donc, cette loi, elle est votée à la Chambre à l'unanimité des 552 présents, c'est-à-dire que vraiment la Chambre, là, a fait le plein, et il y a une petite tentative d'entourloupe au Sénat, où une manœuvre de députés bourguignons, Châtillonnais en tête, aidée de deux députés de la Haute-Marne, lance une proposition pour disjoindre les articles champenois de la loi, sous le prétexte que c'est déroger à la loi en vigueur, que c'est faire une exception législative pour la Champagne, alors que toutes les autres sont sous le règne des limitations judiciaires. Mais à une confortable majorité de 63%, les sénateurs rejettent cette proposition de disjonction. Et donc, la Champagne viticole reste la seule région viticole. Alors, ça a été la première délimité, mais c'est la seule et unique, finalement, dans sa délimitation définitive, à laquelle on est procédé par la voie législative, hein, alors que le Bordelais a été délimité à l'arraché en février 1911, après avis du Conseil d'État, et que la Bourgogne viticole a été délimitée par la voie judiciaire dans le grand procès dijonnais de 1930. Donc nous avons gardé cette singularité.
Tu voudras répondre à d'autres questions ?
Oh bah bien sûr. Si j'ai pas... Oui, j'ai un peu forcé le...